Il y a des questions ? Il y a des questions ?
Moi, j'en ai une, du coup. Est-ce que, des fois, vous accompagnez les missionnaires quand ils font des traductions dans des villages reculés du monde ?
Moi ? Ah non. Non, c'est pas ma... Non. Non, non, non. Moi, je suis dans la traduction de l'hébreu grec vers le français. C'est déjà beaucoup.
Juste une petite question. Au début, vous avez dit qu'il y avait un certain nombre de versets prophétiques et que 3000, je ne sais plus combien, étaient accomplis. Selon qui ? Voilà, c'est ça ma question.
Accomplis... Ah, mais ça, c'est toujours en même temps dans quelle position qu'on se place si on est... Il y a des prophéties qui sont accomplies. Disons, idéalement, pour faire un travail comme ça, il faudrait lister toutes les prophéties. Et ça, tu l'as dans des ouvrages... tu as même certaines Bibles où, à la fin, ils te mettent en annexe. Ils te mettent... Ils vont pas te mettre les, je sais pas combien de 6300 prophéties, mais ils te mettent les 100 les connues et celles qui sont accomplies en Jésus. Parce que souvent, on se limite à ça, c'est les accomplissements messianiques qui touchent à Jésus. On va prendre Ésaïe 53, on va dire que Jésus l'a accompli lors de sa première venue. Tu vois. Mais on va dire, si on prend tout le Nouveau Testament dans l'absolu, on a le nombre là de prophéties. Et on sait historiquement, par Jésus, mais en même temps au cours de l'histoire, la chute de Ninive, la chute de Moab, toutes ces choses que Ézéchiel, Jérémie disent que c'est des prophéties qui ont été accomplies. Historiquement, ça s'est accompli. T'as plein de prophéties de la déportation du peuple juif, du retour en exil. Toi, ça, c'est plein de prophéties qui regroupent, qui ont été accomplies. Donc, mais il existe quelques ouvrages. Ça répond pas vraiment à ta question. En partie. Voilà. Donc, les feuilles qui vous sont distribuées, j'aurais voulu commencer par ça, mais la gentille Mélanie a quand même dépassé ses limites pour aller les faire imprimer. Et c'est recto verso ou il y a plus d'une page ? Voilà. Donc là, c'est un document que vous garderez dans votre classeur qui reprend les termes techniques des mots que l'on voit et que vous devez apprendre par cœur pour un oral qui sera la semaine prochaine. Non, 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 non. C'est bien, c'est juste pour enrichir votre vocabulaire. Et une question ?
Moi, j'avais une question par rapport aux apocryphes. Est-ce qu'il y a... pourquoi les catholiques, ils ont ça, et nous, dans nos versions de la Bible, on n'a pas ? Est-ce que la Bible est plus complète avec ou sans ? Ça change quelque chose ou pas ?
Oui, il y a une raison. Il y a une raison. Et pour la connaître, il faut... Donc, il faut se référer à l'histoire de l'Église. Et en fait, il y a une feuille qui circule à tout heure, il y a un chapitre qu'on essaiera de faire assez rapidement sur les livres apocryphes et tu auras la réponse. Voilà, tout le monde a sa feuille. On se dépêche, parce que là, le midi arrive. Ça va ? On va prendre un cas pratique. Jean 3,16. Tout le monde connaît par cœur Jean 3,16. Qui peut le réciter de tête ? Attends. Il veut l'exclusivité pour...
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Ça va ? Tout le monde a compris ce que veut dire ce verset ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement. Dieu a tant aimé. Quelqu'un connaît un peu les verbes grecs ? Aimer ? Quel verbe grec est employé ? Agapeo. Agapeo. Dieu a tant agapeo le monde qu'il a donné son Fils unique. Puis il y a un autre mot pour dire aimer. Ah oui, j'ai entendu. Philadelphie, c'est Adelphes. Adelphes, c'est frère. Adelphos, des frères. Donc, Phil, Adelphes, c'est les frères bien-aimés. Amour fraternel, pour traduire ça comme ça. Amour. Philéo. Philéo. Tu veux dire
Philéo.
Philéo. Philéo, c'est aussi le verbe aimer. Quelle différence entre agapeo et philéo? Quelqu'un connaît la différence entre agapeo et philéo? C'est important, ça, c'est des petites clés. C'est des clés que je vous donne qui permettent, quand vous allez lire certains passages, de mieux comprendre. Pour qui, pour quel verbe? Agapeo. Alors, on va revenir sur ces deux verbes-là. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est NEG. C'est la majorité des traductions qui ont ça. Second 1900, c'est Semeur. C'est la première traduction des Semeurs. Là, notre sœur, la troisième révision 2015. Donc, les révisions, des fois, on améliore le texte, on fait peut-être quelques corrections, mais en tout cas, la Semeur, la première traduction de la Semeur disait cela. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Alors, je souligne des verbes, le verbe clé, en l'occurrence. Parole de vie. Parole de vie, donc on rappelle, c'est du français fondamental. C'est très simple, très épuré pour que le, vraiment tout le monde comprenne. Il dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront pour toujours. On comprend donc ce qu'il veut dire. Claude Trémontant, on ne va pas la lire, mais ce qui m'intéresse, c'est la traduction du Monde Nouveau, 1995. Donc la traduction ici, Témoin de Jéhovah, nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Ça, c'est très bien d'avoir mis unique engendré. Monogénèse. Donc vous voyez là, c'est un bon point, soulevons-le. Son unique engendré, ça montre le même temps que Jésus est le Fils unique. C'est pas faux hein, quand les traductions disent Fils unique en haut, c'est bien, mais unique engendré, si vous voulez, au niveau théologique, c'est marqué. Afin que tout homme qui exerce la foi en lui ne soit... Il y en a qui connaissent l'annihilationnisme. Alors on écrit annihilationnisme. A-N-N-I. Anni. A-N-N-I. Anni. H-I. Annihilationnisme. L'annihilationnisme. C'est une hérésie. Alors, il y a les adventistes du septième jour et les témoins de Jéhovah. En fait, pour eux, là, on est dans la question de la condamnation éternelle. Quand on dit, vulgairement, si tu ne crois pas en Dieu, tu vas en enfer. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot enfer? Là encore, et pour combien de temps? Pour combien de temps les damnés, enfin les pécheurs, les perdus, vont souffrir en enfer? Pendant combien de temps? Pour l'éternité. Mais même là, le mot éternité nous piège. Parce qu'il y a un départ. Il n'y a que Dieu qui est éternel en soi. Dieu est de toute éternité, c'est-à-dire pas de commencement, pas de fin. Donc pour l'éternité, c'est difficile. Je soulève une grosse question épineuse. Et vous ne ferez pas dire ce que je ne dis pas. Mais pour faire court, les témoins de Jéhovah, pour eux, c'est inconcevable. Donc en fait, les damnés sont détruits. C'est-à-dire tu n'existes plus. Donc il n'y a pas de notion de souffrance éternelle. Tu es détruit, point, tu n'existes plus. Par contre, les élus, les félicités, eux sont pour l'éternité dans la joie. Donc, vous voyez que la doctrine passe dans la traduction. Ne soit pas détruit. Donc, vous voyez les enjeux de la traduction. C'est-à-dire que ce que je crois, je le passe dans la traduction. Mais c'est malhonnête. C'est pas ce que le texte veut dire. Donc j'ai mis, je crois, en bas. Donc, on constate donc que la traduction du Monde Nouveau a choisi de traduire le verbe apolumi par détruire, alors que apolumi veut dire perdre, perdu, ne périsse pas. C'est cette notion-là. Et c'est ce même verbe, être perdu, que l'on retrouve comme un refrain dans Luc chapitre 15. Alors j'en parlerai un petit peu demain, que demain on n'est pas là pour faire de la théologie, mais c'est un mot-clé, se perdre. Et on voit dans Luc 15 qu'il y a cet homme qui a 100 brebis, et il y en a une qui est, et il va la chercher. Et il y a une femme qui a 5 ou 10 drachmes. Et elle en perd. Et puis il y a cet homme qui a 2 fils. Et il y en a un qui est. Et donc on retrouve ce verbe apoulou, perdu. Et en fait, on se rend compte que dans la Bible, ce mot perdu est toujours en relation avec la vie. En fait, être perdu, en quelque sorte, on pourrait dire, c'est être coupé de la vie que l'on a en Jésus. Parce que c'est ce que le texte veut dire. C'est, si tu es perdu, en fait, tu n'as pas la vie éternelle. Et cette vie, être perdu dans le langage biblique, c'est être coupé de Dieu. Pourquoi ce fils de Luc 15, le fils cadet, est perdu? Le père va le dire alors l'enfant, car mon fils qui était perdu est retrouvé. Il était quoi? Non, il dit, Luc 15, il dit, car mon fils que voici était perdu et il est retrouvé. Il était et il est. Donc, la notion de être perdu, c'est lié avec la mort. Mais pas la mort que demain je vais mourir. C'est la mort spirituelle. Donc, dans le langage biblique, être perdu, c'est être privé de la vie, c'est être coupé. Pourquoi ce fils est perdu? Parce qu'il est parti dans la maison. Donc, il est déconnecté de cette maison qui est là où est la vie, là où est le père. Donc, en fait, il s'est coupé lui-même. Il est dans une situation de mort. C'est un mot-clé du vocabulaire et de cette parabole, mais qui montre donc que les traductions peuvent être orientées. Je prends un dernier exemple, Luc 11, 13. « Vous donc qui êtes mauvais, vous savez donner de bons cadeaux à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père dans le ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Second 21 vont dire « Donnera-t-il le Saint-Esprit ?» Et puis très intéressant, Généa, qui est une nouvelle traduction, va dire « À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il un Esprit Saint ?» En plus, pas de majuscule, donc un Esprit Saint. Qui est Saint d'Esprit ce matin là? C'est un jeu de mots, mais qui est Saint d'Esprit ce matin? Alors, il faut prier pour que vous ayez un Esprit Saint. Je ne parle pas de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. Vous voyez, qu'en jouant sur les mots, on perd complètement le sens. Parce que veut dire Jésus dans ce cas-là? À plus forte raison, le Père donnera-t-il quoi? Il est question de quoi? Et c'est souvent un verset qui, nous, les charismatiques, quand on prie bon, le baptême dans le Saint-Esprit, on dit ce verset. Hein oui, le Seigneur veut te donner le Saint-Esprit. On utilise ce verset-là. Donc on peut le comprendre comme étant la personne du Saint-Esprit. Mais c'est très difficile en grec, en fait. Vous devez faire un choix. Le grec ne dit pas très clairement, en plus avec les majuscules, que c'est la personne du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que certains osent se permettre de traduire ça. Mais c'est une toute autre lecture. Vous voyez? C'est des détails. Et je peux avoir un exemplaire de la feuille? Ah, super. lexique. Voilà, c'est. Ah ouais, il y a beaucoup de pages. Mais voilà, ces cadeaux, c'est pour mettre dans vos classeurs. Et donc, ça reprend, on va dire, les mots qui reviennent les plus couramment dans le module de la Bible. Et comme ça, vous pourrez vous familiariser canon, Bible, apocryphe, codex, deutérocanonique. On peut prendre AI, infaillible et inspiration, l'infaillibilité, donc quelque chose qui est infaillible. L'infaillibilité des Écritures signifie que la Bible ne peut pas faillir dans ce qu'elle enseigne en matière de foi et de vie. Autrement dit, tout ce que la Bible affirme concernant la foi, le salut, la morale, et la volonté de Dieu est vraie et donc digne de confiance. En d'autres termes, l'Écriture ne trompe pas et ne peut pas tromper, car Dieu, son auteur ultime, ne ment pas. Et donc le verset clé de Timothée 3,16, c'est un verset à apprendre par cœur, avec Jean 17,17, « Ta parole est la vérité ». Et l'inspiration, qu'on parlait de l'inspiration plénière, la question se pose de savoir quelle écriture, quelle Bible est inhérente, ne contient pas d'erreur. Ne disons pas que telle version française ou autre est sans erreur. Nous affirmons l'inhérence de la Bible dans les manuscrits originaux, à savoir en hébreu, en grec, en araméen. Parce que quand nous disons « toute écriture est inspirée de Dieu », quand nous lisons 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, c'est quoi ? Oui, parce que le nouveau n'était pas encore écrit complètement ni compilé. De Timothée, on pense que Paul a été décapité 65, 66, 67, à peu près. Néron s'est suicidé en 68. Donc il a été décapité sous Néron. Donc on est en 68. On a dit que le canon, à peu près 425, oui. Mais quand Paul écrit en 67, même l'évangile de Jean n'était pas écrit. L'Apocalypse n'existait même pas. Donc il y a pas mal de livres qui n'étaient pas encore écrits. Donc Paul dit, toute écriture est inspirée. Et en tout cas, chez les Juifs, quand on parle de l'écriture, Micra, ce qui peut être libre, c'est toujours en référence avec ce que nous, on appelle l'Ancien Testament ou la Première Alliance. Donc toute cette écriture-là est inspirée de Dieu. Après, par extension, et je veux dire, allez, 99% de gens qui le lisent aujourd'hui, quand ils lisent toute écriture, c'est tout, c'est l'Apocalypse, on le comprend par extension que c'est les 66 livres qui sont inspirés. Voilà. Il est quelle heure ? 11h30. On continue ? Oui. À quelle heure ? On enchaîne une heure ? Ok, ils sont motivés. Allons-y. Alors, on va prendre le premier document qu'on vous a donné, qui est, on va dire, la base, je crois pas que je l'ai, ce document, moi. Alors, c'est...
Vous dites que donc toute écriture est bonne, inspirée, mais que pensez-vous de la parole orale, enfin l'écriture orale, enfin je sais pas si je l'exprime bien. Ouais.
Au niveau du judaïsme. Oui. Pour le judaïsme. Mais parole orale de prédicateur. La loi orale, la Torah orale. La Torah orale, c'est assez complexe. Il y a dans le judaïsme, Moïse a reçu la Torah écrite du doigt de Dieu. et tout ce qui est compilé dans la Torah, dans... C'est à qui m'a donné la feuille ? Ah, c'était en plus. Super, merci. Il y a tout ce qui est écrit dans la Torah. Quand on dit Torah, vous prenez le lexique que je vous ai donné. Quand on dit Torah, c'est les cinq livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais aussi, par extension, on peut aussi parler de toute l'Ancien Testament. Mais la Torah, au sens les cinq livres de Moïse, Moïse l'a reçue, a été écrite. Mais Moïse, quand il était sur le mont Sinaï, pendant 40 jours, il était sur le Sinaï, il était en relation avec Dieu. Dieu lui a donné pas mal d'informations, lui a dit beaucoup de choses qui sont la Torah écrite, mais aussi la Torah orale. La Torah orale qui a été donc transmis de Josué à Shmuel, tout ça. Et puis vous prenez, je dis bien, si ça vous intéresse, mais je suis pas sûr que ça va intéresser grand monde, mais en tout cas, elle a posé la question. Il existe un ouvrage qui s'appelle le Shulran Aruch. Shulran, elle va aller vérifier, je suis sûr. Sinon, tu m'envoies un mail et puis tu prends ma carte, il y a un mail, tu me dis... Oh, toi. Non, mais je prends au sérieux ce que tu dis. Je te prendrai des photos des pages. Et en fait, tu as toute la transmission. Parce qu'il faut en même temps prouver, dire, oh, mais c'est oral, mais peut-être qu'ils se sont trompés. Alors, c'est très délicat. Là, on n'est plus dans l'infaillibilité des écritures. Hein. On est dans un autre registre. Mais ça l'intéresse. Donc, il y a toute une transmission qui est donnée, avec tout, jusqu'à Néhémie, tout ça, pour justifier. Il y a 2-3 pages qui le développent, mais je ne veux pas m'attarder dessus. Mais ça t'intéresse et tu auras la réponse à ta question. J'en étais où ? Ouais ? Mais ? J'en étais où ? Tu suis, toi ? Voilà, parce qu'on a encore une heure. Donc on va essayer pendant cette heure de suivre ce canevas. Donc vous avez la feuille Introduction à la Bible. Parce que c'est principalement ce module-là qu'on voit. Donc ça, c'est un condensé du cours que j'avais donné à mes élèves quand je faisais ce module-là. Et donc je voulais un peu simplifier pour... Donc le mot Bible, on l'a vu, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ont des Bibles où dessus il y a écrit la Sainte Bible. La Sainte Bible. Moi, il y a juste écrit la Bible. Il y en a où il y a écrit la Sainte Bible. Ouais. Il y en a. Quelle différence ? La Sainte Bible. Ça fait sacré. La Sainte Bible. Oh. On trouve la mention Sainte Bible, là je lis ce que j'écris, on trouve la mention Sainte Bible et parfois juste la Bible. Donc nous utilisons souvent le mot saint, agios, en grec, agios, comme une qualité morale ou au sens d'une chose qui n'est pas souillée. Saint, du grec agios, comme de l'hébreu kadash, quand on dit kadosh, c'est saint, kadash, c'est la sainteté. A un sens de séparer, être mis à part pour un usage sacré, donc pour un but spécifique. Donc, dire que la Bible est un livre saint, c'est reconnaître que les livres qui la composent sont séparés d'autres livres que l'on qualifierait de profanes, par opposition donc aux livres sacrés. Les saints livres contenus dans la Bible sont reconnus comme ayant une inspiration divine et de fait sans erreur. Et on revient toujours à 2 Timothée 3,16, c'est pour ça qu'imprimez-le, apprenez-le par cœur, c'est le verset clé. Et aujourd'hui, quand nous employons le nom de Bible, il désigne donc le livre des chrétiens. Donc, vous avez compris que quand on parle de quelque chose qui est saint, c'est un mot technique du vocabulaire, je vais prendre les stylos, j'ai 2 stylos, on va mettre notre plein psych, voilà. Moi, j'utilise ces stylos pour faire mes devoirs, chose de profane, d'accord. Mais je vais en mettre un à part. Ce stylo, il va être Kadash. Il va être séparé des autres. Non, je ne l'aime pas. Parce que celui-là, je l'utilise pour un usage saint. C'est-à-dire pour la parole de Dieu. Un usage sacré. Donc celui-là, il est saint par rapport aux autres. Vous voyez ? Donc, quand je mets la Sainte Bible, je veux simplement dire quoi ? Que je reconnais que les livres, les 66 livres qui sont dans ce livre, sont à part de tous les autres. Platon, Homère, machin, truc chouette, et même les apocryphes. Donc, ils sont saints dans ce sens-là. Vous voyez ? Mais nous, souvent, on est piégés parce qu'on dit « Ah, oh, lui, c'est un saint. C'est un saint. » Mais c'est saint dans le sens de qualité morale. C'est-à-dire presque limite, il est sans péché, il est pur, il est exemplaire, c'est saint Augustin, c'est saint. Vous voyez, c'est pas le même sens. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'étymologie du mot et ce que veut dire les livres saints. Donc quand vous avez le livre saint, voilà, c'est... Donc le papyrus, vous le lirez, on va pas... Là, on est dans la transmission de la Bible. Comment aujourd'hui on en est arrivé à avoir ce qu'on appelle... le mot codex, vous le trouverez dans les définitions, ça c'est ce qu'on appellerait un codex, c'est-à-dire un format comme ça. Mais du temps de Jésus, du temps de Paul, ce format tel-là n'existait pas. On écrivait sur des papyrus, des parchemins, donc qu'on roulait, mais qui effectivement avaient une durée de vie beaucoup plus limitée. Qui s'usait beaucoup, beaucoup plus facilement. Et donc, on en est venu au codex. Effectivement, beaucoup de manuscrits qu'on a retrouvés sont là. Donc ça, c'est des mots techniques que vous retrouvez dans la feuille qui vous permettent de... Voilà, on va prendre la langue, la page 2. Donc la langue de la Bible. On a l'Ancien, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais je n'aime pas beaucoup, même pas du tout. Et des fois, c'est bien d'avoir des réformes de langage. C'est des mots techniques, reniant. Qu'est-ce qu'on dit ancienne alliance ? Ça veut dire quoi, ancienne alliance ? C'est comme tout, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot ancienne ? Elle est ancienne, elle est passée, elle est désuète, elle est plus d'actualité. Quel intérêt alors ? Vous comprenez ? De dire la première alliance, c'est une première. Ça veut dire qu'il y en a une deuxième. Quand Jésus va dire ceci est la coupe de là. Et en grec, c'est quel mot ? On a deux mots grecs, néos et kainos. Je vous le ferai tout à l'heure. C'est très intéressant parce qu'on comprend autre chose que nous, en français, on met nouveau. Mais nouveau, par rapport à quoi ? Donc, je vais voir si je l'ai pour... je l'ai mis ? Ah, peut-être. Super. Nouvelle alliance. C'est... Alors, attendez. On va rester à la page 2. J'ai anticipé et je l'avais mis. J'ai assuré sur ce coup-là. La langue. Donc, la première alliance a été écrite en hébreu. Mais pas que. Je vous ai mis les quelques petites références. On a quelques passages écrits en araméen. Vous vérifierez dans vos bibles en français. Vous ne verrez pas trop la différence. Mais c'est juste pour dire, vous avez quelques passages qui ne sont pas en hébreu, mais qui sont en araméen. Quand tu as lu tout le Nouveau Testament, est effectivement écrit en grec koiné, c'est-à-dire un grec commun, qui était donc la langue commune. Le codex, on l'a vu. Alliance ou testament ? Là, on est dans des questions de mots. Nouvelle alliance ou Nouveau Testament ? Quelle différence ? La Bible est composée de deux parties. Nous le savons, ce que nous appelons plus couramment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Testament vient du latin testamentum, qui veut tout simplement dire alliance. L'hébreu utilise le mot brit radacha, la nouvelle alliance. Brit mila, l'enfant quand il fait sa brit mila, C'est l'alliance par la Mila. Un testament est un écrit dans lequel l'auteur indique aux personnes auxquelles il souhaite transmettre ses biens après sa mort dans les limites autorisées par la loi. Ça, c'est aujourd'hui. C'est comme tout quand j'utilise le mot testament aujourd'hui. T'as fait ton testament ? Tu as fait ton testament ? Non, parce que t'es jeune. Mais tu comprends quand j'utilise le mot testament ce qu'il veut dire. Tu as fait ton testament. Donc, lecteur moderne, il va dire Nouveau Testament, Ancien Testament. Tu dis quel rapport ? Mais c'est pour ça qu'il faut revenir à l'étymologie du mot. Une alliance, je vous l'ai mis dernière phrase aux pages 2, une alliance par contre, c'est quoi ? C'est un contrat qui engage deux parties, deux nations, et qui, le plus souvent, est scellé par un acte. L'alliance, par exemple, que Dieu va contracter avec Abraham, se conclut par le partage des animaux. Vous vous rappelez cet épisode Genèse 15 ? Dieu va faire alliance, Dieu va s'engager avec Abraham que cette terre sera à lui et qu'il aura un fils dans sa vieillesse. Et Dieu va, c'est pas tout, Dieu va pas dire, t'inquiète, tu peux me faire confiance, je m'engage. Non, il y a aussi un acte d'alliance. Et il va y avoir donc, c'est très énigmatique, on comprend pas, nous, occidentaux, en 2025, partage des animaux, tu coupes des animaux en deux et tu passes au travers. Et Dieu passe, une manifestation de Dieu, parce qu'on peut dire une théophanie, une manifestation de Dieu, où Dieu marche au milieu de ses animaux, et Abraham marche au milieu. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous voulez faire un contrat d'alliance, vous allez à la mairie, on va par oral dire les choses, et puis vous signez. Il y a un contrat, il y a une alliance qui est faite. Voilà. Ça n'existait pas, il n'y avait pas les notaires comme on le comprend aujourd'hui. Mais il y avait un acte, et quand Dieu va dire à Abraham, moi, je m'engage que cette terre, la terre d'Israël, est à toi et à tes descendants après toi. Je vais faire une alliance avec toi. Faire une alliance. Cette alliance, c'est quoi ? C'est la Brit Mila. C'est l'alliance de la circoncision. C'est-à-dire aussi longtemps que tes enfants et les enfants de tes enfants et les enfants des enfants de tes enfants, jusqu'à aujourd'hui, donc la lignée est grande, tant qu'ils respecteront la Brit Mila, le signe de l'alliance, moi je m'engage que la terre soit à eux. Et jusqu'à aujourd'hui, cette transmission de la Brit Mila existe. Donc la Brit Mila est le signe de l'engagement de l'alliance entre Dieu, entre Abraham et la terre d'Israël. Voyez ? Et puis on connaît tous aussi cet acte de l'alliance. Quelle preuve on a que Dieu ne détruira plus la terre par les eaux ? Dieu a fait une alliance avec l'humanité. Parce que là, les 11 premiers chapitres de la Genèse parlent à l'humanité. À partir du chapitre 12, voilà, on axe sur la descendance d'Abraham. Mais les 11 premiers chapitres s'adressent à l'humanité. Donc Dieu va faire une alliance avec l'humanité, dire, OK, moi je m'engage, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Et pour ça, je vais donner un signe. Ce signe qui est l'arc-en-ciel. Et chaque fois qu'il pleut, après la pluie, et si vous avez le soleil derrière vous, qu'est-ce que vous voyez ? Donc c'est un message, même pour aujourd'hui, de Dieu, pour l'humanité, pour nous. Vous voyez que ce signe, depuis ce temps-là, est toujours là. Donc pensez-y quand vous voyez un arc-en-ciel, que c'est une alliance que Dieu a fait avec l'humanité. Je vais plus loin. J'ose aller plus loin pour ouvrir la parenthèse. Parce que, en même temps, c'est prophétique. Quel est l'emblème des LGBT ? Pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, les couleurs d'un arc-en-ciel, il y a des couleurs. Pourquoi l'arc-en-ciel ? Ouais. Vous arrivez à faire le lien ? Il y a un lien. Il y a un lien. Le diable détourne toujours. Que s'est-il passé au déluge ? Pourquoi Dieu a détruit la terre ? Il faisait n'importe quoi. Il y a deux mots qui nous est dit dans le texte Genèse 12. Genèse 6, verset 12. Or, toute la terre était pleine de violence. et toute chair avait corrompu sa voix. Ça vous parle ? Ça vous parle ? Mais enfin, ça vous parle, mais quand on le lit, toute chair avait corrompu sa voix. Techniquement, concrètement, qu'est-ce que quoi ? La terre était pleine de violence. C'est très intéressant, le mot hébreu, quelqu'un le connaît ? La terre était pleine de Hamas. Hamas. Ça vient de ça. La terre était pleine de Hamas. Donc ça nous parle en même temps dans notre temps. Le Hamas, c'est la violence, c'est un mot hébreu. Donc la terre était pleine de Hamas et toute chair avait corrompu sa voix. Là, c'est intéressant, entre autres, de se référer à la tradition juive, entre autres dans la tradition orale, de voir qu'est-ce que les sources juives nous disent à ce niveau-là. Parce qu'ils sont bien placés, c'est quand même à eux premièrement que les textes saints ont été donnés. Et on apprend qu'en fait, toute chair avait corrompu sa voix, veut tout simplement dire, ça c'est surtout les Midrashim qui nous disent ça, c'est qu'en fait, je veux pas vous perdre, je veux faire très court, c'est un cours que j'ai donné sur la notion du masculin et du féminin, parce que là on touche à des principes élémentaires de la création. Quand Dieu crée l'homme, le premier Adam, Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme, c'est juste, mais on a tendance à dire, moi je suis un homme, donc c'est-à-dire je suis un mâle, masculin. Mais quand Dieu dit l'être humain, Anthropos, en ce qu'a donné en grec anthropos. Faisons l'Adama, dont Dieu va dire je vais créer un être humain. Il n'est pas sexué masculin. Dieu va dire je vais créer un premier être humain à mon image. Il le crée à l'image de Dieu et il est quoi ? Zahar ou Nekeva. Zahar ou Nekeva. J'ai fait une traduction de la Genèse. Je ne sais pas si je la ferai imprimer, mais il y a pas mal de notes d'études. Et on n'est que deux à avoir traduit comme ça. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, masculin et féminin. Mâle-femelle, enfin, moi j'ai une chienne, c'est une femelle. Je trouve que mâle et femelle, c'est bien pour les animaux. Certaines traductions vont dire, homme et femme, il les créa. Mais homme et femme, il y a ish et isha. Les mots qu'on retrouve à la fin de Genèse. Dieu, alors, quand Adam va voir Ève, il va dire celle-ci est ma femme, et il l'appellera isha. Donc, pour homme et femme, on a un mot. Mais là, en hébreu, c'est zahar ou nekeva. Tu disais ruach, la ruach hakodesh. C'est féminin. C'est le côté féminin de Dieu. C'est le côté féminin de Dieu. Il y a du féminin en Dieu. C'est très intéressant ce qui relève. C'est que Dieu, il est trinitaire, on l'a vu. Il y a une pluralité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et Dieu va créer le premier être humain à son image. Et son image, elle est quoi ? Zahar ou Nekeva. Masculin et féminin. C'est-à-dire que Dieu, il est dans son essence masculin et féminin. Et souvent, la projection que l'on a d'un Dieu qui est masculin, aussi à cause des images qu'on a d'un vieux monsieur barbu, dans l'acte de la création, vous voyez, on est beaucoup conditionné par les images. Mais si vous prenez rien que ce verset de Genèse 1, 27, le premier être humain, il est zahar ou nekeva, il est masculin et féminin. Donc Dieu est pleinement masculin et pleinement féminin, parce que le premier être humain est créé à son image. La vie n'est le fruit que de l'union du masculin et du féminin. Masculin-masculin peut engendrer la vie. Féminin-féminin peut engendrer la vie. Il y en a qui ont fait de la maçonnerie, enfin pas de la maçonnerie, de la plomberie. Vous savez, on utilise des tuyaux PVC quand on veut faire les gouttières. T'as mâle et femelle. Il faudrait que j'en achète, tu me feras penser un jour, parce que je pense que c'est bien des fois d'imaginer. Vous voulez faire une gouttière, mais si vous avez une jonction à faire, vous prenez deux mâles. Est-ce que ça rentre? Et si tu prends deux tubes de PVC, femelle-femelle, ça rentre? Non, tu peux pas. Par contre, tu as un mâle et une femelle, ça rentre. Dieu est le créateur, Dieu fait les choses bien. Et de l'union du masculin et du féminin produit la vie. Et tout le premier chapitre de la Genèse, masculin-féminin, au commencement, Dieu crée. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Il faut comprendre après le concept de masculin et féminin, c'est quoi? C'est des principes. Principes. Le féminin, il accueille, il reçoit. Je parle d'essence, je ne parle pas de femme ou de femelle. Je parle de principes masculins et féminins. Le féminin, dans son principe, il accueille, il reçoit. Le masculin est celui qui fait l'action. On pourrait développer même avec Zahar, Nekeva, les lettres en hébreu. Zahar, l'homme, il est plutôt combattant, il est plutôt dans l'action. Il fait l'action, il donne la semence. Le ciel, masculin, il fait pleuvoir. La terre reçoit, féconde et fait un enfant, même principe, hein. La lune, le soleil, masculin, féminin. Il y a la notion des eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, masculin, féminin. C'est important. Pourquoi il nous dit tout ça, monsieur Nano, l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qui s'est passé au déluge? Au déluge, il s'est passé que toute chair avait corrompu sa voix. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, même les animaux entre eux. La débauche. Et donc, confusion. C'est un mot-clé. Il y a eu confusion des genres. C'est-à-dire, on a porté atteinte à l'image de Dieu. Parce que Dieu est masculin-féminin, un genre de la vie. Et là, il y a eu confusion. C'est pour ça que vous trouvez dans la Torah, dans le Lévitique, que Dieu condamne. Un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme, car c'est une... C'est contre nature. C'est tout ce que Paul va développer dans Romains chapitre 1. Et c'est la confusion. En fait, c'est pas pour rien que le diable s'attaque à ça dans notre génération. Parce que le diable a compris l'enjeu, et c'est tout l'enjeu de ce que nous vivons dans notre société. Et je fais très attention quand je le dis. C'est des choses que je ne sais pas si c'était diffusé dans le monde. Là, je sais que le cours, c'est pour vous, ceux qui ne sont pas là. Donc, voilà, faites attention. Mais c'est juste pour comprendre que le diable s'attaque à ça. Pourquoi le diable s'attaque à l'identité? Tu es un homme ou une femme? Le monde te propose quoi? Tu veux être un homme? Tu peux être un homme. Pourquoi? Tu choisis. Qui t'a dit que t'es vraiment une femme? Vous voyez, ça c'est la société dans laquelle on vit. On te l'est. Ma femme travaille à Pôle emploi, donc ils ont des formulaires. Elle me disait tout ce qu'il y a maintenant, gender, bifluide, des machins. Mince, Dieu dit, Zahar ou Nekeva, tu es un homme ou une femme. Je dis, tu peux pas te tromper. Mais le diable, voilà, parce que le diable, c'est sa dernière carte, il touche à l'acte créationnel. Dieu touche à l'identité du masculin et du féminin. Et quand une société, et ça c'est l'histoire de l'humanité qui nous montre, quand une civilisation reconnaît les péchés d'homosexualité, et aucune génération n'a été aussi loin que nous, où ça a été voté et engagé, qu'est-ce que dit Paul dans Romains chapitre 1? Non seulement c'est à la fin du verset, tout à la fin de Romains chapitre 1, tu peux juste me le mettre, parce que c'est un mot technique qui est très, très difficile à traduire. Le dernier verset, ouais. Non seulement il...
Le verdict de Dieu déclarant digne de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils apprennent.
Voilà. Non seulement ils approuvent ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils approuvent, mais le verbe, en fait, c'est donner son consentement, c'est presque applaudir. C'est-à-dire, c'est allez-y, on donne notre consentement. C'est la politique. Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes forcément le font, mais allez-y, vous avez notre approbation. On applaudit. C'est ça que le texte veut dire. Écoutez, on est en plein dedans. Que s'est-il passé au déluge ? Pleine de violence, et c'est très intéressant de transposer ça aujourd'hui. La terre est pleine de violence, et toute chair avait corrompu sa voix. Donc, confusion de genre au niveau de l'identité, au niveau des mœurs sexuelles. Que fait Dieu ? Quand vous lirez le texte posément chez vous, vous verrez que Dieu ouvre les eaux d'en bas, les écluses, et les eaux d'en haut. Et il y a de nouveau mélange entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ces eaux que Dieu, au début de Genèse, chapitre 6, 7, 8, Dieu va séparer l'amas des eaux. Et il va séparer l'amas des eaux, il va faire un amas des eaux en haut masculin et un amas des eaux en bas féminin. Donc qu'est-ce qu'on retrouve au déluge ? Un acte de décréation. Et vous reprenez la sortie de Noé, de la caisse. C'était une caisse, pas une arche. On est conditionné par les images. Vous voyez une boîte à chaussures ? Une boîte à chaussures. C'était ça l'arche, une boîte à chaussures. Parce que les dimensions qu'ils nous ont données sont un parallépipède, rectangle. Mais pas une arche comme ça. Ça, c'est le problème de la traduction quand on passe du grec au latin. Mais c'était une boîte à chaussures, en fait, ni plus. En fait, c'était quoi ? Un cercueil. Cercueil ? Mais il y avait la vie dans ce cercueil. Noé, sa femme et ses trois enfants qui vont repeupler toute la terre. Donc, ce qui s'est passé au déluge, pour faire le lien avec ça, c'est qu'il y a eu confusion des genres. Et Dieu va de nouveau ramener les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et il va séparer après. Donc il y a un parallèle entre Genèse 1 et aujourd'hui. Et je termine sur notre fameux drapeau, le drapeau LGBT. Que font LGBT quand ils brandissent le drapeau ? En fait, ils se moquent de Dieu. Ils disent, t'as vu ? T'avais dit que qu'il ne se passerait plus ça et que tu détruirais plus la terre. Mais nous, cet arc-en-ciel, il nous couvre. En fait, nous, on peut. On se moque de toi. En fait, c'est véritablement blasphémer contre Dieu à cause de ça. Donc, ce n'est pas anodin, ce drapeau. Et puis, on poursuit. Là, on parlait d'alliance. J'ai ouvert une parenthèse. Mais c'est pour vous donner une lecture. Alors, et l'alliance de Noé, le signe d'arc-en-ciel. Donc, Ancien Testament, première alliance. Saint Augustin affirmera, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. C'est pour ça que certains chrétiens disent, moi je lis que le Nouveau Testament. Ouais, c'est bien, mais il faut aussi lire l'Ancien Testament. Tout, c'est un tout. C'est un tout. Et pour comprendre le Nouveau, il faut aussi connaître l'Ancien. Et ce qui s'accomplit dans le Nouveau est dit dans l'Ancien. Donc il faut lire la Bible dans son entier. Parce que Dieu n'a pas inspiré plus le Nouveau Testament que l'Ancien Testament. On a parlé tout à l'heure que les 66 livres sont tout autant inspirés, même deux chroniques. Même deux chroniques. Même Lévitique. Ouais, je sais, ce n'est pas des livres faciles à aborder, mais pourtant, ils sont d'inspiration. Après, il y a des saisons dans la vie. Donc, on va prendre page 3, donc au milieu. Là. La première alliance est conclue avec seulement le peuple d'Israël au mont Sinaï. Donc, Dieu va faire une alliance avec le peuple d'Israël. Et cette alliance, c'est la Torah. Ce que nous appelons la nouvelle alliance est donc une expression tirée de Jérémie 31-31. Je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une Brit Hadasha, une nouvelle alliance. Et notez qu'il ne dit pas qu'il va faire une alliance avec l'Église. Parce que là, on est dans des discussions théologiques. Est-ce que l'Église a remplacé Israël dans la théologie de la substitution ? Ce n'est pas le propos. Mais il est dit, après, donc le Nouveau Testament, lui, est inauguré par la venue de Jésus. Jésus lui-même qui dira, en Luc 22, 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Elle peut, comme les Bibles hébraïques l'ont nommé, s'appeler Brit Hadasha ou encore alliance renouvelée. Alors, ce qui nous intéressait tout à l'heure, c'est le mot nouveau. Le mot nouveau, on a deux mots en grec, néos et kainos. Nouvelle alliance, donc vous pouvez suivre ce que j'ai écrit, le grec possède deux mots pour dire nouveau, néos, c'est ce qui est nouveau dans sa forme, quelque chose de jeune, de frais, qui pourrait être rendu par jeune. Quand on parle d'un jeune converti, vous avez ça dans 1 Timothée 3, si quelqu'un aspire à la charge d'être ancien, il faut que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, ta. Il ne faut pas qu'il soit un jeune converti. Il ne faut pas qu'il soit un jeune converti. En grec, c'est néophyte, c'est-à-dire une jeune pousse, une jeune plante. Donc quelqu'un de tout nouveau, tout fraîchement converti, néos. Vous comprenez ? On utilise le verbe nouveau, mais dans le sens que c'est nouveau, c'est frais. Et le deuxième mot pour dire nouveau, c'est kainos. C'est nouveau, mais dans le sens de renouvellement. Ce qui veut dire qu'il y en avait un ou une avant, et que celui-ci est nouveau, amplifié ou amélioré. C'est le mot kainos qui est employé ici, quand Jésus va dire « cette coupe est la nouvelle alliance ». L'alliance instituée ici par Jésus lors de ce repas prend donc un sens plus large qu'il ne l'était auparavant. Cette alliance qui alors était exclusivement contractée par le peuple juif sera désormais ouverte à toutes les nations. Là encore, Jésus n'invente rien en soi. C'est pas une nouvelle alliance que Jésus dit « voilà, moi je vais créer quelque chose de nouveau ». Mais elle est nouveau dans le sens où désormais cette alliance sera ouverte avec toutes les nations. La scène n'est pas non plus quelque chose de nouveau. La scène, ce qu'on appelle le céder de Pessah, le peuple juif le faisait pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc chaque année, au moment de la Pâque, le peuple juif fait le céder de Pessah. Donc Jésus, à ce moment-là, avant d'être crucifié, va donner un sens messianique à ce repas. Et donc, il dit, la scène n'est pas quelque chose qui s'est mis en place tout seul, mais il donne à ce repas, qui était célébré par tous les Juifs, une fois tous les ans, en tenant Dieu, un sens messianique. Cette coupe est la nouvelle alliance. Donc, c'est une alliance qui n'est pas nouvelle en soi, qui n'existait pas avant. Elle est amplifiée. Elle est revisitée. Elle est, voyez, c'est ce sens de nouveau. J'ai pris Marc 16 qu'on connaît tous. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et souvent, je pose la question, il y en a qui parlent en langue ici? Qui parle en langue ici? Et quand vous parlez en langue, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez quoi? Alors, il y a des gens qui me disent, oh, je parle la langue des anges. Wow. La langue des anges, c'est quoi? Bon, Paul, quand il le dit, même si je parlais la langue des anges, c'est une hyperbole, c'est pour dire, même si je ne crois pas en soi qu'il existe un véritable langage des anges où nous, on utilise un langage pour communiquer entre nous, on ne sait pas dans le ciel, on ne sait pas. Mais personnellement, je ne pense pas que c'est une langue, un langage angélique. Donc j'ai mis dans ce passage le mot grec pour nouveau, et kainos. Ils parleront des langues nouvelles. Il s'agit de nouvelles langues qui n'ont jamais été apprises, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles n'ont jamais existé précédemment. Sinon, on aurait utilisé l'autre mot grec. Donc, on a le mot kainos. Quand tu parles en langue, ça peut être, je sais pas moi, du celte ou un patois que les Japonais parlaient au IIIe siècle. On n'a aucune idée. Aucune idée. Mais par l'esprit, tu parles cette langue, tu parles une nouvelle langue que tu n'as pas apprise, que tu ne connais pas, mais qui existait. Tu comprends? Quand on écoute le parler en langue, c'est quand même construit. Vous imaginez si tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, si je n'avais que la voyelle A, toutes mes phrases, j'ai que la voyelle A, ça ferait bizarre. Mais quand quelqu'un parle dans une langue qu'il ne connaît pas par l'esprit, ben, tu sens quand tu écoutes que c'est construit. Il y aurait quelqu'un qui parle couramment le russe ou le tchèque ou je sais pas n'importe quoi, on lui demanderait juste de parler pendant une minute, de nous lire un texte. On verrait dans la manière dont il parle que c'est construit, que c'est posé. Vous voyez ? Parce qu'il y a aussi dans la pratique du parler en langue une maturité à avoir. Si j'ai un enfant, je lui dis toujours papa, maman, dodo, papa, maman, dodo, papa, maman, dodo. Qu'est-ce qu'il saura dire ? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on enrichit notre vocabulaire ? Qu'est-ce qui fait que demain, tu vas pouvoir utiliser péricorèse, septante, deutérocanonique ? Parce que tu l'as entendu, tu l'as appris, tu as enrichi ton vocabulaire. Ben avec l'Esprit de Dieu, c'est pareil. C'est plus tu vas parler en langue dans ta piété personnelle, plus tu vas enrichir. C'est pas à mon propos de parler de ça, mais c'est mon expérience personnelle. Mais tu entends dans le parler en langue la maturité de quelqu'un. Je parle pas de jugement, je suis pas là pour juger. Je dis simplement, voilà, peut-être prendre davantage de temps dans ton culte personnel pour parler en langue, pour l'enrichir. Et puis voilà. Jean 14, 34, je vous donne un commandement nouveau. Waouh, Jésus donne un commandement nouveau. Ce commandement nouveau, c'est quoi ? Il le dit 3-4 fois, c'est Jean qui relève ça. Aimez-vous les uns les autres. Mais il est nouveau en soi, ou il est néos, ou il est kainos, ce commandement? Kainos. C'est nouveau dans un renouvellement qui veut dire qu'il y en avait un avant, mais que celui-ci est nouveau. Et je prends l'exemple, si je prends la Clio, vous allez dire, j'ai acheté la nouvelle Clio. Aujourd'hui, on est à la Clio, quoi? 4, 5? 6? 6? Spécialiste de la Clio ce matin. Je crois que c'est la 5 ou la 4. Bon, bref, je dirais la 4. J'ai acheté la nouvelle Clio. Elle est nouvelle ? Non, il en existait. Il existait la 1, la 2, la 3 et la 4. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux autres ? Elle a évolué, il y a des technologies qu'il n'y avait pas, mais elle n'est pas nouvelle en soi. Vous voyez la subtilité du grec que nous, on a nouveau. Donc ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Donc de même qu'il y avait une première alliance, celle de Jésus renouvelle celle qui existait. Cette alliance, plus tard, a été ouverte aux païens. C'est avec Corneille qu'on voit ça, acte 10, à cause de l'incrédulité des juifs qui, face à la messianité de Jésus. Voilà. Quelle heure est-il ? On va finir avec chapitre et verset, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais là, c'est posé un peu plus posément. Et puis, je crois que j'ai un exemple assez folklorique. On terminera avec deux exemples, et puis peut-être un temps de questions-réponses. Donc, il nous reste 20 minutes. Donc, qui a ajouté les versets, qui a ajouté les chapitres ? C'était le premier travail qui a été fait. Hein, je vous l'ai dit, les manuscrits, quand Paul écrit, tout ça, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, ça n'existe pas. C'est des blocs. D'ailleurs, je crois, j'ai mis une petite photo. Voilà, j'ai une petite photo derrière, la ponctuation, ça va avec, parce qu'en fait, quand on parle de la Bible, je vous ai dit, c'est un bloc de caractères, et donc il y a eu un premier travail qui a été fait, c'est de chapitrer, déjà ça a aéré un peu le texte, et puis après, pour des mesures de facilité de lecture et de mémorisation, je le dis, vous le lirez, on a mis les versets. Effectivement, c'est plus facile aujourd'hui quand on dit 2 Timothée 3,16. On connaît par cœur, on a le verset. Mais si vous aviez pas ça avant, tu dirais, ouais, il y a un passage dans 1 Timothée, toute écriture. Voyez. Donc c'est pas souci de faciliter, d'aider le lecteur qu'on a fait ça. Donc d'abord, on a chapitré et ensuite, on a fait les versets. Et après, elle dit, il y a toute la question de la ponctuation. Et vous voyez sur le dessin, un exemple d'un papyrus, le papyrus 75, qui date de 175, c'est le début de l'évangile de Jean. On voit en haut, Egelion, Kata, Yohanan, hein. Et puis ceux qui lisent le grec, ils peuvent voir en arché, les premières lettres ici, là. En arché, au commencement. Mais vous voyez que si vous lisez, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de, bon, on peut voir des points, tout ça, mais, c'est un bloc. Donc à partir de là, il faut, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Qui a ajouté les chapitres ? C'est l'œuvre et la tentative d'un certain Lanfranc. conseiller de Guillaume le Conquérant, qui ébauche une division de versets en chapitres au XIe siècle. Mais la découpe telle que nous la connaissons de nos jours, dans nos Bibles là, c'est au XIIIe siècle, 1203. C'est là que l'ecclésiastique anglais, le cardinal Stephen Langton, archevêque de Canterbury et grand chancelier de l'Université de Paris, divisa en chapitres l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sur le texte latin de la Vulgate. Les travaux de Langton ont été améliorés par un dénommé Thomas Gallus, qui lui divisa chaque chapitre en paragraphes. Vers 1226, les librairies de Paris introduisent ces divisions en chapitres dans le texte biblique, donnant lieu à la Bible parisienne. Lors de cette division, est répandu l'homme entier. Regardez-moi, c'est pour pas lire la suite. Je travaillais sur, c'est le témoignage, vous le lirez, mais je préfère vous le dire en direct. Il y a une traduction anglaise qui s'appelle The Patient Translation. Il y en a qui connaissent? The Patient Translation. Qui? The Patient Translation. Je crois que c'est de Brian Simmons, c'est ça? C'est une amie qui m'a dit si je connaissais. Alors moi, je suis plus spécialisé dans les Bibles françaises, mais bon, des fois, on peut un peu déborder. Et puis, elle me dit, oh, écoute, ça me gêne la traduction. Il y a, alors je dis, bah, montre-moi des extraits, tout ça. Alors, je dis, ça vaudrait le coup peut-être de faire un article. Donc, si ça vous intéresse, je dis, bah, si ça vous intéresse. Et sur Bibliorama et vous tapez dans le moteur de recherche The Patient Translation. Et je mets un peu une mise en garde. Je ne suis pas là pour dénigrer des Bibles, tout ça. Ça a le mérite d'exister. Mais des fois, quand il y a un travail que j'estime malhonnête, de par ma position, je me permets. Et comme je veux aussi être un défenseur des Saintes Écritures, le Seigneur n'a pas besoin de moi, mais... c'est bien de mettre en garde. Je ne suis pas là pour vous interdire d'acheter de Patient Translation, j'ai bien compris, mais de mettre en garde. Et cet homme, Brian Simmons, fait un interview. Vous pouvez lire. Brian Simmons, le traducteur principal de The Patient Translation, affirme avoir eu une vision céleste dans lequel il a vu un livre intitulé Jean 22. Dans cette vision, il se serait retrouvé dans une immense bibliothèque céleste où il a découvert ce livre inédit qu'il décrit comme contenant des révélations sur le plus grand réveil spirituel à venir. Il a partagé cette expérience dans une interview de Zébro Dorian dans le plan naturel. Jean chapitre 22. J'ai dit, ça n'existait même pas. Est-ce que vous pensez que Jean, inspiré par l'inspiration, Jean avait écrit un chapitre 22? Il ne savait même pas qu'on allait découper chapitre 21, chapitre 15, chapitre 13. Donc ça n'existait pas. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Jean chapitre 22, j'ai dit déjà, ça ne tient pas au point de vue culturel. Vous voyez, mais quand on ne connaît pas, pour certains, c'est presque la Bible, il y a toujours eu des versets, il y a toujours eu des chapitres. On a l'impression que ça a toujours été comme ça. D'où l'intérêt, c'est peut-être la seule fois que vous entendrez ce cours de votre vie, mais vous saurez que les chapitrages et les versets se sont faits au fil de l'histoire. Qui a ajouté les versets? Vous pourrez répondre si on pose la question. Santos Panino. C'était un juif converti. Et après, c'est Robert Etienne, l'un des premiers traducteurs de la Bible en français, qui a fait son chapitre. Ça, vous le lirez, c'est plus pour votre culture personnelle, c'est des feuilles que vous gardez. Et puis, la première Bible imprimée avec chapitre et verset. Donc 1552, vous voyez que c'est quand même assez tardif, 1552, où on retrouvera sur, en intitulé dans cette Bible, c'est ici, là, juste deuxième paragraphe de la page 5, son édition de 1552 s'intitule ainsi, le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ, tant en latin qu'en français, les deux translations traduites en grec, répondantes l'une à l'autre, verset à verset, noté par nom. C'est un travail gigantesque aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y avait pas de machine à écrire. C'est impressionnant le travail. Et il ajoute pourquoi cette édition était divisée en versets afin de soulager et aider le lecteur. Et je crois que nous, aujourd'hui, on l'en remercie. On peut dire que cet homme était inspiré. Un dernier mot sur la ponctuation. Donc, vous avez un extrait du P75, vous avez la traduction en dessous, si ça vous intéresse. Et donc, disons-le, la ponctuation dans le Nouveau Testament est quelque chose d'arbitraire. Dans l'original, il n'y a pas de ponctuation. Donc, parfois, il est difficile de trancher. Et je prends deux exemples. Luc 23, 43, Jésus est sur la croix. C'est Luc qui nous rapporte ça. Et il est dit, dans une traduction, Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis aujourd'hui... » Notez, j'ai mis les virgules en rouge pour marquer. Donc, il y a une traduction qui va dire, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » B, Jésus lui dit, « en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite, certains, c'est un petit peu plus long. Hein. La version A, je vous l'ai mis derrière pour relire, la version A laisse sous-entendre que ce jour même, dès qu'il sera mort, suite au brisement des jambes, que le brigand rejoindra Jésus, mais la version B, vous voyez, vous décalez juste la virgule. C'est une histoire de virgule. C'est nul. Enfin, c'est rien. Mais on peut en tirer parti. Version B, quant à elle, a davantage l'idée d'une promesse à venir. Un jour viendra où tu seras avec moi. Et ça, c'est la lecture que privilégie la doctrine catholique, qui joue dessus pour laisser sous-entendre qu'après un certain temps, c'est-à-dire le purgatoire, quand tu auras expié, quand tu auras passé un certain temps, alors tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez ? On joue sur des virgules. Et Jean 7, 37, 38, c'est très compliqué. Le dernier grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi » et qu'il boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de ses entrailles. Première lecture. Et la B, on va prendre directement au verset. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On fait une pause, on a mis un point. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Comme dit l'Écriture. Donc, promesse à venir, qui s'accomplira à la Pentecôte, ou effective, dès à présent dans la vie des croyants, en fonction de la lecture que vous adoptez. Enfin, c'est surtout en fonction de la Bible que vous avez. Et puis, pour terminer, deux petits détails au niveau de la traduction, qui là ne sont pas sans grande importance, à part pour les peintres. Vous savez, il y en a qui ont déjà été au Vatican, qui ont vu le Moïse avec les cornes. Vous savez, on représente souvent Moïse avec deux cornes. Vous avez déjà vu ça ? J'ai jamais vu ça. Sauf que vous n'avez pas fait attention. J'insère une image dedans. En fait, vous avez Moïse, et vous regarderez souvent que ce soit sur les timbres, sur les peintures, dans les églises. Quand vous visitez les églises, vous voyez des représentations de Moïse. Vous voyez Moïse avec deux petites cornes. Non, ce n'est pas les cornes du diable. Non. Il a deux petites cornes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la traduction du grec au latin. Enfin, de l'hébreu, parce qu'on est en hébreu. Je vous la fais très courte. C'est que quand Moïse descend du mont Sinaï, il y a des rayons qui sortent. En fait, son visage est lumineux. En hébreu, keren. Il y a des rayons. Vous voyez, son visage humide, il y a des rayons. Mais Keren, ça veut aussi vouloir dire une corne. Keren, une corne. Et Saint Jérôme, quand il traduit la Vulgate, il a compris Keren, corne. Il dit que Moïse, quand il descendait de la montagne, il avait des cornes. Et Michel-Ange, quand il a fait la statue de Moïse, vous voyez Moïse avec des cornes. Bon, on en rigole, c'est pas grave. Mais vous voyez que c'est une erreur de traduction, qui, qu'on le veuille ou pas, elle est gravée dans le marbre. Donc c'est pour ça, on est beaucoup conditionné par l'imagerie, en fait. c'est tout un chapitre. Puis on termine, donc, lorsque Pilate il fit sortir Jésus dehors, et ça dans Jean 19, 8, Litostrotos, quelques traductions ont, il le ramena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal, et d'autres qui vont dire, il fit sortir Jésus dehors et il s'assit. Là, en l'occurrence, c'est Pilate. Donc, en fonction des traductions, c'est qui s'assit sur le tribunal ? C'est Jésus ou c'est Pilate ? Donc, selon cette lecture, Pilate aurait donc fait asseoir Jésus sur le siège. Peut-être certainement par dérision. Alors, c'est un choix de traducteur. Moi, je pense plutôt que c'est il a mis sortir Jésus, c'est lui qui se soit assis. Donc, on privilégie une lecture. Et enfin, le dernier exemple, voilà, c'est quand Paul, dernier voyage, il va à Rome. Est-ce qu'il est passé en dessous Chypre ? Mais là, c'est toute la complexité de la langue grecque. Vous voyez ? Il n'y a plus rien derrière. Et on arrive au terme de ce chapitre. Est-ce qu'il y a des questions ?
Moi, c'est de la curiosité. Du coup, vous avez été au Vatican pour voir les originaux ?
Pas du tout. Non, tu tapes Google Images, tu mets Moïse Michel-Ange. Ah non, tu trouves ça. Ça, tu trouves ça partout. Tu tapes Google Papyrus P75 et puis tu trouveras ça.
Non, je me demandais s'il avait pu voir les papyrus originaux. Ah, moi j'aimerais. Au Vatican.
Moi je me passionne pour ça. C'est une passion, je suis un passionné. Mais j'aimerais, oui, oui. J'ai une collection de Bibles parce que c'est mon. D'autres questions ?
Pour vous, quelle est la version, quelle est la Bible la plus.
Plus fiable ?
Plus fiable, oui.
C'est de lire en hébreu et en grec.
Ah oui.
Non, on le verra tout à l'heure. Il y a un dernier cours après manger où on va parler plus techniquement de la traduction, des enjeux de la traduction avec des exemples, parce que c'est ce qui parle le plus, comme ça qu'on vous relirait. Je l'aborderai après. La dîme, le voile, la femme, un chrétien peut-il fêter Noël, et tatati, c'est toutes les questions qu'on nous ressort chaque année et des discussions qui sont. J'ai un sondage, si ça vous intéresse, vous viendrez me voir. J'ai un sondage de 50 questions que j'ai fait pour cartographier un peu les croyances dominantes des chrétiens. C'est toutes les questions qui sont sujets à, pas à polémique, mais toutes les questions qui peuvent diviser. Et il y a 50 questions qui reprennent pas mal de choses de ce que j'ai dit ce matin. Et ça permet de cartographier, c'est anonyme en soi, mais ça permet de cartographier l'ensemble des croyances des chrétiens. Et vous voyez, par exemple, croyez-vous à la Trinité ? Que vous avez en fait 13% de gens qui n'y croient pas. Vous avez la question, est-ce qu'une femme a le droit de prêcher ? Alors vous avez 26% d'après les réponses que j'ai qui peut ça. Un chrétien doit-il donner ça ? Vous voyez, toutes ces questions-là. Qui, moi je vais te dire ça, et un autre, peut-être d'une nomination, va te dire le contraire. Qui croire ? Il y a ce que le Saint-Esprit va déposer, une conviction, et c'est bien d'en avoir. Mais de pouvoir en même temps les confronter avec d'autres.
Un rapport au livre saint, on a parlé de c'est la Sainte Bible que c'est écrit. Est-ce que c'est à cause d'avoir mis ce mot qu'il y a certains qui du coup disent c'est un livre saint, on n'ose pas écrire, on n'ose pas dessiner, on n'ose. Je pense même le Coran, il doit y avoir quelque chose comme ça.
Il y a une part de ça dans le. Dans le judaïsme, on touche même pas le texte. On a ce qu'on appelle un yad, c'est-à-dire un petit doigt. Ceux qui ont vu Rabbi Jacob, quand il est dans la synagogue et qu'on lui demande de lire la Torah, il est embêté parce qu'il ne sait pas lire l'hébreu. Et en fait, il a un petit doigt. Même les juifs, quand ils lisent le Sefer Torah, ils ont un petit doigt pour ne pas toucher le texte. Donc, les juifs ont un rapport avec le texte saint qui peut-être même des fois nous dirait, mais ils en font peut-être un peu trop, on n'en fait jamais trop. C'est comme tout, c'est quels sont nos rapports avec le texte saint ? Comment tu appréhends le texte saint ? Est-ce que tu as conscience que Dieu est trois fois saint ? Oh ! Dieu est trois fois saint. Nous, on est ses créatures. Ok, il se révèle en tant que Père, mais Dieu est trois fois saint. On ne joue pas. On n'est pas à la cour de récré avec lui. Donc, il y a aussi une sainte crainte. Pas comme on craint mes parents. Je crains mon père qui me mette un coup. Ce n'est pas cette crainte-là. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire une sage, une sainte crainte. Tu vois ? Mais de là à aller jusqu'à dire c'est les livres saints, limite je me lave les mains, faut pas non plus être certains juifs sont très puristes à ce niveau-là, c'est bien, on respecte, il y a aussi la tradition, tout ça, mais je pense pas que ça joue sur la Bible est pleinement inspirée. Maintenant, ce que nous avons dans les mains,
c'est juste du papier,
ce livre. C'est un papier, comme j'ai dit, c'est même l'œuvre d'un traducteur, mais on essaie tant soit peu de faire confiance au traducteur, mais en soi, ça reste un livre. Et quand je dis c'est un outil de travail, c'est aussi un outil de travail, c'est la parole de Dieu, mais je la rends vivante, je la rends dynamique, j'ai besoin de mettre des notes. Vous voyez, c'est la part entre dire c'est sain dans le sens où je veux pas la souiller en quelque sorte et voilà. Non, ça doit rester aussi quelque chose. Voilà, il y a une dynamique avec votre Bible qui est votre outil de travail, qui est votre épée. Enfin, l'épée, on la laisse pas toujours dans le fourreau posée sur là. Une épée, ça sert avant tout pour pouvoir se défendre, pour se battre. Ça répond à ta question ? Claude ?
Oui. Alors, grande question. Dans la Bible, on dit qu'elle est inspirée, mais des fois on prend des versets comme s'ils sortaient de la bouche de Dieu, alors que ça sort de la bouche des personnages des récits bibliques. Donc des fois il y en a qui disent des bêtises. Comme on regarde dans Job, les amis de Job, ils disent pas que des choses raisonnables. Et il y a ce verset particulier, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de l'Éternel, et puis on sort ce verset à toutes les sauces. Voilà, mon fils s'est fait écraser par une voiture, Dieu a redonné, Dieu a repris, alléluia. Je trouve ça abominable, quoi. Et comment, on fait la part des choses entre ce qui est vraiment parole inspirée de Dieu et citation d'être humain faillible, quoi.
C'est une autre question ou tu veux réagir ?
La Bible, elle dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Et je pense qu'il y a déjà tout dans ce verset. C'est qu'il faut lire la Bible avec l'esprit de Dieu. Il y a tout et son contraire. Et on pourrait justifier, ça a justifié les croisades, ça a justifié l'esclavagisme, ça a justifié, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, ça justifie l'alcool. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre aux jeunes et à ceux qui se convertissent à lire la Bible avec l'esprit de Dieu. Et c'est tout un travail, je trouve, de discipline, un travail de cœur, un travail de recherche.
La Bible, c'est à deux tranchants. Si tu vas toujours trouver des versets qui vont aller dans le sens de telle doctrine, et je vais trouver des versets pour justifier telle doctrine. Donc on n'est pas là pour faire des guéguerres, pour tout ça. Mais pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, moi tout va bien là. Mon fils est avec moi, j'en travaille. Je peux chanter. Oui, prends tout, Seigneur, sauf ma santé, mon travail. On est plus... Oui, prends tout, Seigneur. Mais le jour où vous avez appris ce qui vous est arrivé et que tu chantes ce chant, hein, il a une autre teneur. Il a une autre teneur. Donc, il y a la proclamation, bête et stupide. Tu donnes et tu reprends. Ouais. Le Seigneur, il dit, heureusement que je sais où t'en es, je vais pas te prendre au mot. Tu donnes et tu... Ouais, on reprend. Et le diable, il fait comme Job, il dit, ouais, tiens, je peux le tester, je peux le prendre, allez, sa santé. Un truc pendant 3 mois, là. On va voir s'il va chanter. Donc, chanter pour chanter, ouais. Mais c'est comme tout, c'est... Prenons au sérieux la parole de Dieu quand nous la disons. Prenons au sérieux les paroles que nous chantons. Tu es libre de ne pas chanter un passage parce que tu le prends au sérieux. Tu n'es pas moins spirituel qu'un autre. Non, au contraire. Ça prouve que tu ne veux pas dire n'importe quoi. Pas mal à dire. Mais Tu sais, les noces de Cana. Les noces de Cana, on connaît tous ce récit. Tu vas le lire. Tu le lis la veille de ton mariage ou un texte qu'on lit le jour des mariages. Il va avoir son sens. Tu vas dire, ouais, c'est la fête, Jésus met du vin, à peu près 960 litres de vin. C'est la fête, Dieu est un Dieu de la fête. Dieu veut la fête. Mais je suis sûr que le jour où tu es à l'enterrement de ta maman et que tu en as gros sur la patate et que tu pleures et que tu lis les noces de Cana, tu trouveras du réconfort, tu trouveras de l'espérance, tu trouveras la consolation. Il n'y a aucun autre livre qui peut faire ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Et à n'importe quelle saison de ta vie que tu te situes, ce texte-là te parlera. Donc, aimez les Écritures. Je vais m'arrêter, je pense qu'il est l'heure. Ça va refroidir. Donc, aimez les Écritures et méditez-la et osez partager avec d'autres. Moi, on partage beaucoup avec mon fils. Il me dit, je ne comprends pas ça, papa, tout ça. Mais je ne suis pas là pour lui dire, c'est comme ça que tu dois comprendre. On est dans un échange, on est dans un partage. On ne veut pas imposer nos idées. Merci beaucoup pour votre attention.
Moi, je vais juste rebondir pour Claude. C'est quand on traverse certaines choses, en fait, qu'on comprend la parole de Dieu. Parce que moi, par exemple, Job, je l'ai lu avant d'être malade. Et je me disais, ah ouais, quand même, c'est un peu méchant ce qu'il a fait Dieu et tout, le pauvre et tout. Et en fait, quand j'ai traversé mes 8 ans de maladie, au final, je me suis retrouvée comme Job à louer Dieu, à dire, en fait, merci Seigneur de m'avoir permis d'être malade et de le louer pour ça, en fait. Et pourtant, sur le moment, il y a plein de fois où j'ai demandé à Dieu de me tuer parce que j'en pouvais plus. Mais maintenant, je suis capable de le louer pour ça, en fait. Mais avant, je ne comprenais pas cette dimension du texte. Donc c'est au travers des épreuves en fait qu'on comprend ce genre de choses.
Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage.